France Culture.
Chers auditeurs de France Culture, je vais vous raconter une histoire. Vous ne connaissez sans doute pas Sam Bartram, héros du football anglais, qui a sa statue à la porte du stade de Charlton, à Londres, connu pour avoir été le premier Gaul à dribbler et à se promener hors de sa surface de réparation. Mais pas seulement, Sam est célèbre pour avoir été un jour, malgré lui, l'homme invisible, l'ombre indistincte dans le vent glacial. Il était gardien de but, Sam. On l'associe à jamais à une seule chose, le brouillard, le fog qui fit de lui un grand goalkeeper, un grand gardien de but, capable d'attendre. Comme dans un livre de Kafka, comme dans un film de David Lynch.
Ces bruits lointains, confus, un cri, un coup de sifflet, le son mat d'un coup de pied. Tout cela était absolument sans importance et n'avait aucun rapport avec moi. J'étais moins le gardien d'un but de football que le gardien d'un secret. Les bras croisés, je m'adossais au poteau gauche du but et goûtais la volupté de fermer les yeux et ainsi j'écoutais mon cœur cogner. Je sentais la pluie invisible sur ma figure. J'entendais au loin les bruits discontinus de la partie.
Cet extrait de « Autre rivage » de Vladimir Nabokov, ancien Gaul de l'équipe de Cambridge, décrit presque la qualité de l'histoire qui nous occupe. L'histoire d'un gardien de but à la dérive mais héroïque, qui ne sait pas qu'il est encore plus seul qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il faut le dire, gardien de but est de toute façon un métier solitaire. Les autres peuvent marquer, pas vous. Les autres ne se prennent pas de but. Vous, oui. La plupart du temps d'un match, un gardien de but s'angoisse, souffle, soupire, tente de bien se placer. Sa nuque est tendue. Il parle un peu tout seul à des camarades qui sont loin, busy, qui n'entendent pas, qui pensent seulement à la mettre au fond pour pouvoir se payer une autre Lamborghini. Sa responsabilité, elle est immense. Laisser passer un ballon, le voir s'écraser derrière soi alors que le filet tremble, c'est quelque chose à quoi on ne s'habitue jamais. C'est être un traître ou pire, une passoire. Jean-Paul II, le très Saint-Père Karol Wojtyła, a occupé jeune ce poste à risque dans l'équipe de Wadowice. Un camarade se souvenait ainsi de lui en 2012. C'était un bon gardien, donc.
Plutôt, oui, c'était un vrai battant. Même si à chaque fois qu'il encaissait un but, les insultes pleuvaient. On le traitait de tous les noms.
Vous voulez dire que vous avez insulté le pape ?
Oui, comme tous les autres camarades.
Je me baladais. Ça vous étonne, brouillard épais sur London Town. Quelqu'un me fait signe, fantôme de charme. Et d'après ses lignes, sûrement une femme.
Sam Bartram, notre sujet du jour, avait le sens du devoir. Né avec la guerre de 14, mineur à 14 ans, bientôt héros de la deuxième, ce gentil géant a été sauvé par le foot. En tant que Gaul du Charlton Athletic, club du district royal de Greenwich, dans le Grand Londres, il a joué 22 saisons, entre 1934 et 1956, soit 623 matchs, ce qui reste un record. Parenthèse de manière tout à fait intéressante. Un de ses homophones, Dave Bartram, détient le record Guinness de 300 concerts en une année avec son groupe Show Wadi Wadi, qu'on écoute avant de rentrer dans le vif du sujet.
Let's go for a little walk under the
Albert Camus, qui fut gardien au Racing universitaire d'Alger, considérait cet emploi de Gaulle comme celui de l'étranger, l'outsider par excellence. Il s'est confessé à un journaliste sur sa carrière.
J'appris tout de suite qu'une balle ne vous arrivait jamais du côté où l'on croyait. Ça m'a servi dans l'existence.
Oui, Albert, mais parfois les balles n'arrivent pas. Elles restent au loin, au très loin. C'est un peu ce qui est arrivé à Sam Bartram. Les mots de Nabokov pourraient très bien s'appliquer à ce qui eut lieu le 25 décembre 1937 et qui marqua l'histoire du foot anglais. Je cite Nabokov pour le plaisir et je vous jure que je crache le morceau juste après.
Oh, bien sûr, j'eus mes jours de gloire et d'euphorie. La bonne odeur du gazon, ce célèbre avant-centre, dribblant de plus en plus près de moi avec le ballon fauve neuf du bout de son pied au mouvement rapide. Puis le coup cinglant, l'arrêt réussi, son picotement prolongé. Mais il y eut d'autres jours, plus mémorables, plus ésotériques, sous les ciels lugubres où la zone du but était un amas de boue noire, le ballon aussi gras qu'un pudding, et où j'étais martyrisé par des maux de tête atroces après une nuit sans sommeil.
Eh bien, disons-le tout net, ce jour-là, pour ce match de Noël contre Chelsea, alors que Sam digérait probablement une sorte de pain perdu au concombre accompagnant le traditionnel blanc manger d'anguille en gelée, si caractéristique de la gastronomie festive britannique, le ciel semblait s'assombrir capricieusement. On appelle ça le Christmas fog. C'est tristoun, un peu pâteux, mais c'est comme le premier album des Spice Girls. Les Anglais ne peuvent pas s'en passer. Nous sommes donc à la 61e minute. Le score est de 1 but partout, ce qui est un score solide pour une équipe qui rencontre un Chelsea alors largement favori. Sam est sur ses gardes, mais au fur et à mesure que le brouillard s'épaissit et envahit le terrain, il perd de plus en plus la connexion avec le reste de son équipe. Voici ses souvenirs de ce curieux événement, écrit à la première personne.
Peu après le coup d'envoi, le brouillard commença à s'épaissir rapidement à l'autre bout du terrain,
écrivit-il dans son autobiographie.
L'arbitre arrêta le match, puis, la visibilité s'améliorant, le relança. Nous étions au sommet à ce moment-là, et je voyais de moins en moins de joueurs à mesure que nous attaquions sans relâche. J'arpentais ma ligne de but, heureux de savoir que Chelsea était coincé dans sa moitié de terrain. « Les gars doivent bien donner un coup de massue aux retraités !» me suis-je dit avec suffisance, en tapant du pied pour me réchauffer. De toute évidence, cependant, nous ne mettions pas le ballon au fond des filets. Aucun joueur ne revenait se positionner comme il l'aurait fait après un but. Le temps passa, et je m'avançais plusieurs fois vers la limite de la surface de réparation, scrutant la pénombre qui s'épaississait de minute en minute. Toujours rien. La défense de Chelsea était clairement débordée. Après un long moment, une silhouette surgit du rideau de brouillard devant moi. C'était un policier et il me regarda bouche bée.
« Mais que diable faites-vous encore ici ?»
s'exclama-t-il.
« Le match a été interrompu il y a un quart d'heure. Le terrain est complètement vide. »
Et quand je me suis frayé un chemin jusqu'au vestiaire, le reste de l'équipe de Charlton, déjà sorti du bain et en civil, était convulsé de rire.
Sam Bartram est resté ce Gaulle sans match, sans coéquipier, sans public, trouvé par hasard par un flic en patrouille, en plein brouillard, en plein fog. Comme certains soldats japonais, restés le fusil à la main dans les îles du Pacifique, bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces 20 minutes de solitude l'ont rendu célèbre instantanément. Célèbre comme une incarnation de l'esprit anglais, tenace et insulaire, ne laissant rien passer, n'abandonnant jamais ce dont il a la responsabilité. De sa posture reste une photo, partout désignée comme le représentant. Elle est fausse et représente un autre Gaulle dans un autre brouillard. On s'en contentera. On a opposé Sartre, le boxeur, braillard, voyant, pour qu'il enfersait les autres, à Camus, le Gaule, l'outsider, l'étranger, efficace et économe en style, le tout dans un livre d'Andy Martin, un auteur justement britannique en 2012. Écoutons encore Nabokov.
J'avais la passion de garder le but. En Russie et dans les pays latins, ce noble art a toujours été nimbé d'un prestige particulier. Parce que son rôle le tient à l'écart, solitaire, impassible, le gardien de but se voit suivi dans la rue par des petits garçons transportés d'enthousiasme. Il rivalise avec le matador et l'as d'aviation en tant qu'objet d'adulation frémissante. Il est l'aigle solitaire, l'homme de mystère, le défenseur ultime. Des photographes ploient respectueusement le genou pour prendre un instantané de lui au moment où il est en train de faire un plongeon spectaculaire et le stade rugit d'approbation, tandis qu'il reste une minute ou deux étendu de tout son long là où il est tombé, cependant que son but est demeuré inviolé.
Merci à l'indispensable Françoise Le Floch, à l'experte Océane Dias, attachée de production Elodie Vazex, et bravo à Théo Wiesmann. Que votre semaine soit aussi une histoire truculente.